presque fini, mais on est en retard, alors je vais essayer d'aller plus vite. Moi, j'ai la chance d'avoir à parler d'une population très floue. Quand on parle d'un docteur, on sait ce que c'est. Quand on parle d'un doctorant, on sait ce que c'est. Quand on parle d'un ideabiatos, on sait vite ce que c'est et on arrive à le définir. Moi, je vais parler en fait de ceux qu'on appelle des vacataires, mais qui s'appellent souvent des contractuels, qui sont en fait des chargés de cours. Ce sera le terme que j'emploierai dans la suite de la présentation. Donc finalement, pourquoi est-ce que je dis que c'est flou? C'est parce qu'effectivement, beaucoup des vacataires ou des chargés de cours pensent qu'ils ont un contrat, ne serait-ce que parce qu'on les a engagés pour assurer les 12 semaines du semestre ou les 14 semaines. Donc ils pensent qu'ils ont un contrat. Évidemment, il n'y a jamais eu de contrat au sens signé, ni aucune garantie. Donc déjà, il y a un flou sur la terminologie qui rend l'analyse assez difficile. On a aussi des doctorants et des docteurs qui répondent par rapport à contrat sans que ce soit forcément leur contrat au sens où on l'a vu tout à l'heure, contrat doctoral, mais c'est plus souvent quand ça inclut des heures en plus de leurs 64 heures ou des heures qui étaient définies dans leur contrat pour ceux qui sont un peu plus anciens. Donc, ce qui va être important, c'est que ce sont des collègues qui assurent des vacations d'enseignement, des heures d'enseignement. Je voudrais prendre une seconde, même si on est pressé, sur une catégorie de contractuels, tout de même, qui sont les enseignants de langue, pas tous évidemment, mais un certain nombre d'enseignants de langue, de lecteurs ou de maîtres de langue, qui eux ont des contrats, je ne vais pas rentrer dans les détails et les différences de type de contrat, mais des contrats qui ne peuvent dans certains cas pas être renouvelés plus de 2 fois, donc c'est 1 an voire 2 ans, des contrats parfois qui durent une vie entière, qui sont renouvelés sans arrêt ou presque, avec des conditions de travail pour ces collègues-là absolument insupportables. Si je compare avec un maître de conférence qui fait 192 heures en, beaucoup d'entre eux font jusqu'à 600 heures d'enseignement par an. Donc des contrats, là, pour le coup, avec des conditions terribles et le salaire ne correspond pas forcément à ces 600 heures. Sur l'ensemble de notre population, c'est-à-dire de ceux qui ont répondu, en regroupant et en recoupant tous nos vacataires chargés de cours, ça correspond à environ 24% de la population. Oups, c'était plus facile quand même. Quelques caractéristiques pour les décrire. Je vais là aussi aller plutôt rapidement puisque il n'y a pas de grand scoop. Ils sont diplômés de l'enseignement supérieur. Il y en a tout de même près de 40% qui ont déjà un doctorat. Ils sont en moyenne autour de 32 ans, donc ce n'est pas très différent du chiffre moyen qu'on a présenté au début, mais tout de même avec un bon nombre d'entre eux qui se trouvent au-dessus de la tranche 30 ans, 36% entre 30 et 40. Après, évidemment, les chiffres sont plus faibles, mais sont importants tout de même. 9% entre 40 et 50 ans, et 5% qui ont plus de 50 ans, quand on voit de quoi on parle, c'est-à-dire vraiment des chargés de cours avec aucune garantie, aucune protection, ça fait quand même un peu mal. Comme toujours, et j'insiste pas, plus de femmes que d'hommes. L'ancienneté, ça va un peu avec l'âge, on peut le croiser avec l'âge. Il y a tous les jeunes qui sont là depuis peu de temps, et c'est quand même la majorité, hein, 65% sont chargés de cours, c'est-à-dire dans cette position-là depuis moins de 5 ans, mais il y en a. Évidemment, les pourcentages sont dégressifs, si j'ose dire. 9% sont chargés de cours depuis entre 10 et 20 ans, et puis on en a même quelques-uns qui sont là depuis plus de 20 ans. Donc, ça veut dire que c'est une carrière aussi dans certains cas, et le mot « carrière » est à prendre avec beaucoup de guillemets. En termes de mode de vie, c'est pas très intéressant, donc je passe. C'est pas très intéressant, si, c'est sûrement important, mais pas le point que j'avais là. Et on peut y revenir, bien sûr, dans les questions tout à l'heure. À propos des revenus, alors là, c'est très ambigu et c'est très difficile, puisque nous avons un certain nombre de répondants qui ont un contrat avec un salaire fixe. Ce qu'on peut juste remarquer, c'est qu'il y a tout de même peu de personnes qui répondent, ça correspond à 8% si je prends les catégories facture, prête, non, en nature ou aucune rémunération. Il y a donc peu de personnes qui ne sont pas payées ou pas déclarées ou pas légalement déclarées ou pas légalement payées pour faire ce travail. mais je voudrais insister sur le fait que ce chiffre ici est bien le chiffre déclaré, et on sait que ce n'est pas facile de dire, d'écrire dans un questionnaire, même si c'est anonyme, qu'on travaille au noir, qu'on travaille avec des arrangements de prête-nom, de facture, de remboursement, de livres, etc. Donc, il y en a tout de même 80 sur notre effectif ici qui déclarent ce genre de choses. Combien ils gagnent ? Là encore, c'est à prendre un peu avec des pincettes, peut-être. Si on regarde les trois cases du côté droit qui correspondent aux salaires les plus importants. Alors, je dis salaire, mais je devrais écrire des guillemets en le disant, donc je le dis avec des guillemets, puisque ça ne s'agit pas forcément de salaire au sens habituel. C'est pas si terrible. Globalement, c'est pas mal. Presque 1400 euros. Là encore, on est sans doute dans un problème de brut net, et on est de toutes les façons non pas sur des déclarations d'impôts, mais sur des estimations. Donc on doit le prendre comme des estimations et pas grand-chose de plus. Mais ça, ça fait partie des difficultés ou de l'intérêt de notre étude. Les différences entre hommes et femmes, et là, c'est pas exactement ce qu'on s'attendait à voir. On avait l'impression que les femmes gagneraient systématiquement moins. Ben non, en fait, elles gagnent plutôt un peu plus. Mais c'est peut-être parce qu'elles arrivent à avoir beaucoup plus d'heures. Et un des témoins qu'on va avoir tout à l'heure n'est pas encore là, parce que justement, elle est en train de faire des heures, et elle en fait partout, en courant à droite, à gauche. Mais donc, on y arrive. Peut-être un point sur leur perception de l'avenir ou leur perspective. On a en gros trois sous-groupes, hein, les doctorants, donc ceux-là, ben, ils se disent, le jour où j'aurai ma thèse, ça ira mieux, j'aurai un poste, peut-être. Les docteurs, ben, ils espèrent toujours que leurs vacations vont se transformer, que ça va constituer un bon CV, et qu'ils vont finir par avoir un poste, donc un poste d'enseignant-chercheur. Et puis, la question qui se pose entre poste de titulaire, poste à l'université, poste ailleurs, 23% tout de même pensent, espèrent, je devrais dire, obtenir finalement un poste de titulaire dans l'enseignement supérieur. 23%, c'est pas beaucoup sur la population dont on parle, c'est pas beaucoup, surtout quand on se rappelle qu'on a beaucoup de docteurs et de doctorants là-dedans, et qu'on a tendance à penser, à tort, que quand on est doctorant ou docteur, c'est pour travailler à l'université ou dans la recherche. Donc, ils ne sont pas très optimistes. Pour finir, juste avec la même échelle que celle qu'on vous a déjà présentée, c'est un peu une caricature ce qui est apparu en premier. Globalement, ils sont encore plus pessimistes que les ITA Biatos dont on parlait tout à l'heure. 20% choisissent la réponse 3. On est donc du côté négatif, le très positif étant 10. La majorité des réponses, donc 82%, se situe en dessous de 5. J'ai mis un peu comme une boutade, et on ne sait pas si c'est une boutade, ceux qui ont répondu très très confiants avec un 10, voire avec un 9, mais bon, je l'ai fait apparaître là. Une question qu'on a posée, c'était par rapport au concours. Est-ce qu'ils envisagent de passer un concours, vraisemblablement, pour entrer dans la fonction publique ? Seulement, je dirais, 50% envisagent un concours. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup qui n'en sont... qu'ils ne sont pas dans cette logique-là et dans cette démarche-là. Et pourtant, et ce sera le dernier point, 72% envisagent tout de même de continuer à travailler dans l'enseignement supérieur et ou la recherche, tout en ne passant pas de concours, c'est-à-dire, et c'est un mot de fin triste en ce qui me concerne, c'est-à-dire en restant chargé de cours, vacataire à vie. On a presque fini.